Bonsoir à toutes et à tous, c'est Simon, il est 18h sur Radio Campus, bienvenue à bord du Pédalo.
Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le Pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au programme du Pédalo ce soir, l'été bat son plein, une saison qui rime avec vacances. Oui mais voilà, environ 40% des Français restent chez eux pendant la période estivale. Pour comprendre les raisons qui empêchent de trop nombreuses personnes de voyager et pour connaître les solutions qui sont mises en place, on reçoit Marie-Chantal Guillot, bénévole à Vacances et Familles 49. Et puis en deuxième partie d'émission, on vous propose d'écouter un micro-trottoir réalisé dans le cadre des ateliers Radio Héron. Les ados qui ont participé ont demandé aux Angevins et Angevines s'ils sont pour ou contre la gratuité des transports en commun. Voilà, vous savez tout de ce pédalo du mardi, 20 juillet, du lundi, toujours pas, je vais y arriver, lundi 20 juillet. Alors ajustez votre gilet de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
37% seulement, c'est la proportion de Français qui ne partent pas en vacances, selon un récent chiffre de l'Observatoire des inégalités. Alors que nous sommes en plein mois de juillet et que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir la chance de bouger, il faut garder en tête que pour plus d'un tiers de nos concitoyens, c'est à la maison que ça se passe. Alors pour comprendre les raisons et pour connaître les solutions qui sont mises en place, on reçoit Marie-Chantal Guillot, bénévole à Vacances et Familles 49. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors je viens de citer ce chiffre de 37%, c'est très élevé, mais c'est rarement une problématique qu'on met en avant, le droit aux vacances. Pour autant, on peut dire que c'est quelque chose qui est fondamental.
Oui, bah exactement, tout à fait. Le droit aux vacances, ça fait partie des nécessités pour les familles. Et de nombreuses familles ne peuvent pas partir en vacances, en effet, c'est énorme. Vous, les raisons? Et alors, il y a beaucoup de raisons, en fait. Alors, soit ce sont beaucoup de familles monoparentales, ça peut être des familles aussi qui ne savent pas comment faire pour partir en vacances. Et puis également, il y a le côté financier, quoi. Les vacances, ça coûte très cher et il faut pouvoir les financer.
On aura l'occasion de revenir justement sur cet aspect financier, mais pourquoi est-ce qu'on peut estimer que c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui de partir en vacances, alors qu'on pourrait se dire bon, c'est secondaire, mais ça a quand même quelque chose d'important.
Et c'est important parce que pour les mamans, quand elles sont seules avec leurs enfants, c'est important de partager du temps avec eux, c'est important de découvrir un autre lieu, de vivre un moment ensemble. Et ce matin, par exemple, on accueille au Poncé, et il y a une famille qui est présente là pour toute la semaine, et la maman nous disait, je suis heureuse d'être avec mon enfant dans un camping calme et dans un camping. Et elle se disait, c'est pas forcément nécessaire d'aller loin, quoi. Le principal, c'est de partir. Elle vient du côté de Nantes, et pour elle, c'est l'essentiel, quoi. C'est se retrouver avec les enfants, surtout pour les mamans, les familles, et puis prendre du bon temps, voilà. Sortir de la vie aussi, sortir des routines de la vie est dure des fois, donc ça permet de s'ouvrir un petit peu, de changer d'air en gros.
Oui, de créer un moment vraiment de déconnexion.
Exactement,
totale.
Exactement, de déconnexion, tout à fait.
Alors si on se penche justement sur les enfants, on peut dire que c'est une période de la vie où ne pas partir en vacances, ça peut avoir encore un impact plus important?
Oui, parce que c'est vrai que pour les enfants, c'est important parce qu'ils ils sont comme tout le monde, en fait. Bon, ils vivent déjà dans des milieux où la vie n'est pas facile. Et là, ils ont l'expérience des vacances et ils peuvent partager avec leurs petits copains. Je suis allée là en vacances, dans tel endroit, j'ai vu la mer, j'ai vu les animaux, enfin, etc. quoi. C'est ça qui est important, ouais.
Alors la première raison qu'on peut invoquer, on en parlait déjà tout à l'heure, pour expliquer qu'autant de gens ne peuvent pas partir, c'est évidemment l'argument économique. Chez les revenus les plus modestes, c'est une personne sur deux qui reste chez soi. Dans quelle mesure est-ce que le coût des vacances reste un frein?
Donc, parce que c'est un budget important, vous voulez partir en terrain en camping, une semaine de camping, ça peut être 600 euros par exemple, et pour une famille c'est énorme quoi, c'est énorme pour... Après il y a les familles aussi, le frein c'est qu'ils ne sont pas véhiculés, ça c'est pareil, les familles qui n'ont pas de voiture, elles ont du mal, elles ne peuvent pas partir, ou elles ne... Bon, elle pourrait partir en train, mais c'est pareil, il faut pouvoir prendre le train. Voilà, c'est ça le... qui est important, quoi. C'est...
Et au-delà du coût de la location, on le disait, hein, qui est quand même très cher, il y a d'autres dépenses à côté qui ah bah, freinent, je pense,
oui, bah,
à l'essence,
sûr.
Par exemple.
Bah, mais... Oui, voilà. Oui, actuellement, l'essence, c'est un gros sujet aussi. Oui, il y a l'essence qui coûte très cher. Il faut se nourrir aussi. Alors, souvent, quand les terrains de camping sont au bord de la mer, bon, la nourriture est chère, quoi. Il faut pouvoir s'alimenter. Les loisirs, c'est cher aussi, quoi. Donc, tout ça, c'est un frein qui empêche les familles de partir en vacances.
Alors, on parle d'ailleurs des familles, mais est-ce qu'il y a des différences sur cette difficulté à partir entre des personnes qui partent justement en famille ou des personnes qui partent seules? Est-ce qu'on est confronté aux mêmes difficultés?
Il y a aussi ces difficultés-là, parce que pour les personnes seules, alors vacances et familles aussi, bon, ne fait pas fait aussi partir des personnes des familles, non, des personnes seules ou des personnes en couple. Donc c'est pareil, oui, il y a le frein aussi financier, il y a le frein aussi de la démarche de partir en vacances, où c'est pas toujours évident de savoir comment partir. Voilà, donc il y a des possibilités aussi avec l'association.
Et est-ce qu'on aura l'occasion justement de développer toutes ces possibilités? Est-ce qu'avec les récentes crises, je pense à la crise du Covid ou aux récentes inflations, vous avez remarqué à Vacances et Familles que c'est de plus en plus difficile pour de plus en plus de personnes de partir? Est-ce qu'il y a vraiment en ce moment particulièrement des difficultés?
Les difficultés, c'est plus le côté financier, quoi. C'est plus l'essence qui a augmenté, c'est plus, voilà, c'est ça qui fait que... Voilà, parce qu'après, les prix sont lissés au niveau de Vacances et Familles, donc...
Mais en ce moment, particulièrement, il y a plus de demandes ou est-ce que ça reste stable?
Non, il y a de plus en plus de demandes. Non, il y a de plus en plus de demandes quand même. Oui.
Alors, si le prix du quotidien augmente, c'est la même chose, forcément, pour les vacances. Qu'on se représente bien la chose, c'est quoi les différents coûts qu'on doit prendre en compte pour une personne qui veut partir en vacances? On parlait de la location, de l'essence. Est-ce qu'il y a aussi des coûts qu'on imagine moins, mais qui existent?
Principalement, c'est quand même l'essence, c'est l'alimentation, les loisirs. Ouais, c'est ça en général. Oui, c'est plus ces choses-là qu'il y a à tenir en compte, quoi. Et c'est vrai que le camping, c'est quand même le camping ou les VVF, c'est vraiment un coût important, quoi. C'est vraiment un coût important.
Ouais, parce que justement, les loisirs, on n'a pas encore développé sur les loisirs, mais même des personnes qui peuvent partir peuvent ne pas forcément avoir les moyens sur place de faire certaines choses et donc d'avoir... Certes, cette déconnexion, mais pas forcément des vacances où on s'amuse autant que d'autres personnes.
Oui, bah, tout à fait. C'est pour ça. C'est pareil. Hein. L'association, elle est là aussi hein, pour les accompagner justement à découvrir autre chose, à aller avoir des vacances aussi de curiosité, quoi. Voilà, à chercher, à voir ce qui se fait dans l'environ.
Alors aujourd'hui, dans la gestion du budget des familles les plus modestes, il y a forcément une hiérarchie qui est faite. Est-ce que le fait de partir en vacances passe la plupart du temps au dernier plan, malheureusement?
Oui, parce que c'est pas forcément une nécessité pour les assistantes sociales, c'est pas forcément la nécessité des vacances. Oui, ça part. C'est pour ça qu'on a des personnes qui s'inscrivent très très tardivement, quoi. Oui, c'est pas la première pensée pour le milieu social parce que on pense que c'est pas nécessaire, quoi. Sauf que pour les familles, c'est important de déconnecter, de
Et au-delà de la question financière, on commençait à parler aussi d'autres raisons qui pourraient empêcher des gens de partir. Est-ce que, par exemple, des personnes peuvent avoir les moyens, mais il pourrait exister des barrières sociologiques ou autre chose qui fait que certains ou certaines restent chez eux?
Alors, oui. Alors, en fait, il y a des familles qui ne savent pas comment faire pour partir en vacances. Ils n'ont pas eu cette...
C'est une culture,
voilà, c'est ça. Donc, ça fait partie vraiment aussi des raisons pour lesquelles les familles ne partent pas en vacances. Et c'est pour ça que nous, on les aide à partir comme ça, quoi. Ouais.
Mais parce que c'est aussi quelque chose de sociétal où ce rapport aux vacances n'est pas aussi incitatif.
Alors, je ne sais pas si c'est sociétal, mais enfin, en tout cas, je pense que... ils connaissent pas. En fait, ils savent pas comment faire. Voilà, parce qu'ils ont pas eu l'opportunité on leur a pas expliqué. Donc voilà, c'est plus ça, quoi. Donc
Et des personnes qui vont finir par s'interdire eux-mêmes de partir en vacances, de même pas le concevoir comme une option.
Ah bah oui, je pense qu'ils vont pas oser, parce que d'abord, ils vont se dire financièrement, d'abord c'est trop cher, et puis comment on fait, surtout, comment on fait, il y a des personnes qui savent pas, quoi, donc on est là pour les aider, hein, ouais.
Alors cette année, on fête les 90 ans de la victoire du Front Populaire qui a instauré les premiers congés payés en France. Est-ce que c'est une date qui est célébrée à sa juste valeur, et est-ce qu'on peut dire que l'idéal imaginé à cette époque sur la question des vacances est atteint aujourd'hui ?
Alors là, je sais qu'au niveau de l'association Vacances et Familles, on en parle actuellement. Donc l'année prochaine, je pense que il va en être question. Voilà, donc...
Pour valoriser justement,
oui, justement,
cet héritage.
Oui, voilà, pour valoriser les vacances, parce que c'est vrai que c'est important, ouais.
Et d'ailleurs, est-ce que les politiques publiques de ces dernières années sont à la hauteur des enjeux liés aux vacances ? Qu'est-ce qui a été mis en place de marquant, si quelque chose a été mis
Alors,
en place ?
Après, bon, voilà, mais c'est comme tout ce qui est dans le milieu un peu social et tout ce qui est financement, c'est compliqué. Bah oui, c'est compliqué parce que nous, comme l'association fonctionne, enfin, les familles reçoivent des aides de la CAF et l'association reçoit des aides aussi, bah, des financements publics, donc bah, c'est réduit aussi un petit peu, voilà, oui, c'est ça les difficultés, quoi, ouais.
On continue de parler des difficultés à partir en vacances avec Marie-Chantal Guillot de Vacances et Familles 49. Mais avant, on fait une pause musicale. On écoute Gia Margaret. C'est une autrice, compositrice, interprète américaine originaire de Chicago. Son morceau s'intitule Good Friend et c'est sorti cette année dans l'album Singing. A tout de suite dans le pédalo.
Yeah.
C'était Good Friend de Gia Margaret. Vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute du Pédalo. Et aujourd'hui, on parle des difficultés à partir en vacances avec Marie-Chantal Guillot de Vacances et Famille 49. Alors, face aux difficultés pour partir en vacances, quelques dispositifs existent. On peut penser au chèque ANCV ou à l'aide aux vacances des familles de la CAF. Est-ce que tout ça est vraiment suffisant ?
Pas forcément. Alors, ça fait partie des complémentarités, tout ça. Et c'est vrai que, avec l'association, pour nous, on accompagne les familles avant, pendant et après. Donc, on construit le dossier avec les familles. Et donc, en leur demandant les choix, et on les accompagne. Alors, avant, pour faire le dossier, bien sûr, toutes les tâches administratives. Et pendant, eh bien, il y a les bénévoles. En fait, au niveau de l'association, il y a beaucoup de bénévoles qui sont là pour accompagner les familles pendant les vacances. Voilà.
On aura l'occasion justement de développer sur les bénévoles. Et même si les dispositifs qu'on vient de citer existent, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont assez connus ? Est-ce que trop de personnes n'en profiteraient pas, faute de savoir comment ça marche ?
Je crois que c'est pas assez connu. Hein. Pourtant, c'est une association qui date de 60 ans quand même. Mais c'est pas forcément assez connu parce que de plus en plus quand même, de plus en plus connu. Mais le contrepartie aussi, il faut trouver des partenariats avec les campings, avec les VVF. Voilà, il y a ça aussi, donc c'est pas toujours simple.
Et alors donc justement, chez Vacances et Familles, donc vous mettez en place des séjours destinés à ces personnes qui ne parviennent pas à partir. Comment ça se passe exactement ? Parce qu'il y a toute une préparation en amont avec la famille ou avec la personne qui souhaite bénéficier de ces vacances.
Oui, alors comment on procède ? Donc en fait, on a soit par les CSAS, les banques alimentaires, on a eu la CAF aussi, ou alors le bouche à oreille qui fonctionne. Et les familles prennent contact avec soit avec quelqu'un du CSAS qui fait le relais au niveau des bénévoles. Donc on rencontre les bénévoles pour leur expliquer d'abord comment fonctionne l'association, comment fonctionnent les séjours. Et suite à ça, on les rencontre une deuxième fois et on peut leur proposer tout dépend après des filles. Alors au niveau financement, voilà, on leur donne le coût du séjour. Et puis, suite à ça, ils nous disent s'ils sont d'accord ou pas d'accord, s'ils ont les moyens de financer leur séjour ou pas.
Mais parce que donc, c'est des séjours qui sont, avec ces partenariats, proposés à des prix beaucoup plus faibles, c'est ça qui...
Oui, alors, le principe, c'est que alors, c'est des séjours d'une semaine. Sur le Maine-et-Loire, on fait partir les familles d'une semaine de nombreuses familles partent. Et les prix, alors, les familles que partent dans le sud, dans le nord, dans l'ouest et tout, les tarifs sont les mêmes pour tout le monde. Le tarif du séjour est le même pour tout le monde. Et après, le tarif est selon le coefficient familial. Voilà, selon le coefficient familial. Après, il y a une participation, il y a des mécènes. Alors, il y a les VACA. Il faut que ce soit des familles qui ont des enfants, donc qui possèdent des VACA.
Alors, tout le monde n'a pas forcément les mêmes envies pour ces vacances, que ce soit en termes de destination ou de mode d'hébergement. Comment est-ce qu'on arrive à rester réaliste tout en essayant de prendre en compte les exigences des bénéficiaires ?
Alors, comment on reste ? On essaye de... On leur fait plusieurs propositions, hein, parce que c'est pas nous qui dictons leurs choix. Hein, ils ont vraiment des choix. On leur propose trois choix et on essaye de satisfaire au mieux possible. Au plus possible pour qu'ils soient satisfaits de ce qu'ils demandent, quoi. Voilà.
Et c'est quelque chose qui est facile ?
Les familles reçoivent les VACAF, leur VACAF au début février, mi-février. Donc on commence dès février et c'est celui qui a fait son dossier le plus tôt qui arrive à être satisfait de sa demande. Oui. Parce qu'après, voilà, le problème c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens veulent aller à la mer, mais il y a beaucoup de campings hein, qui sont en partenariat avec l'association, mais il en faudrait plus encore, quoi. Voilà.
Alors, tout ce qui concerne le séjour, on le disait tout à l'heure, il est géré par des bénévoles. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de trouver assez de monde pour répondre à la demande des missions? Et voilà, qu'est-ce qu'ils viennent chercher aussi, ces bénévoles qui participent?
Alors, trouver des bénévoles, c'est comme dans toute association, c'est compliqué. Sur les Ponts de Cé, nous avons trouvé 2 bénévoles quand même, ce qui est déjà pas mal. Au niveau du Maine-et-Loire, on a beaucoup de bénévoles. Il y a à peu près 11 campings qui reçoivent des familles. Et il y a beaucoup de bénévoles sur les ponts, c'est sur le Maine-et-Loire.
Ouais. Et qu'on comprenne bien, ça représente quoi comme travail que font ces bénévoles?
Alors, le travail des bénévoles, il y a les bénévoles départ, comme on dit, on fait les dossiers avec les familles, on leur donne les financements, tout ça. Et ensuite, on a les bénévoles accueil. Et au niveau de l'accueil, ça consiste à prendre contact d'abord avec la famille qui va venir en vacances dans le camping. Ensuite, prendre contact 15 jours avant, de savoir si elle a bien pris son billet de train, si elle a bien compris où elle venait, tout ça. Et on va chercher, la famille n'est pas véhiculée, donc on va chercher la famille à la gare d'Angers, puis on l'amène par exemple chez nous au Pont de Cé. Voilà, alors ça, voilà, pour le début. Ensuite, par exemple, il y a une famille qui est arrivée samedi, on a été lui rendre visite ce matin pour savoir si ça se passait bien au camping, donc... On fait du lien social aussi avec. Ensuite, on propose également 2 animations. L'association offre 2 animations auprès des familles. Donc, la famille a fait le choix d'aller à Terra Botanica. Donc, demain, elle va partir toute la journée à Terra Botanica.
Voilà. Et au-delà du simple fait de permettre à des personnes de partir en vacances, on peut dire qu'il y a aussi une réelle volonté de créer du lien social. J'imagine que ça passe justement aussi par ces rendez-vous. C'est quelque chose qui est particulièrement important, cet aspect lien social.
Oui, c'est important parce que les familles, elles, alors pas toutes, mais elles recherchent aussi la nécessité de parler, la nécessité de rencontrer d'autres personnes, d'autres familles. Voilà, c'est important. Et puis nous, les bénévoles aussi, nous on s'y retrouve aussi parce que c'est vrai que c'est agréable de rencontrer des gens différents, c'est agréable de rencontrer des personnes qui ont des vies différentes. Et nous, entre bénévoles, on rencontre des gens sympas aussi. Donc voilà, quoi, c'est ça, en gros, vacances et famille.
Et d'ailleurs, c'est quoi les retours que vous avez de la part des personnes que vous avez accompagnées? Est-ce que vous constatez un réel bénéfice du séjour auquel ils auraient pu profiter grâce à vous?
Les retours, des petits mots. L'année dernière, par exemple, on a eu des familles qui étaient très contentes de leur séjour, donc on a droit à un petit mot. On a eu droit aussi à des tricots, à des gants en laine. On a eu droit à des bonnets de laine et tout. Oui, on a vraiment des retours. Et puis, 87%, je voyais là sur la responsable Camille m'a envoyé un document, 87% des familles sont satisfaites des séjours qu'il y a au niveau national. Qui des séjours de vacances.
Voilà. Oui, donc plutôt un bon chiffre.
Oui, c'est plutôt oui.
Et après les séjours, donc des rencontres collectives sont organisées avec les personnes accompagnées. C'est quoi l'intérêt de ces moments? Qu'est-ce qui en ressort?
Alors, qu'est-ce qui en ressort? En fait, ça permet d'avoir un échange entre les familles aussi. Et nous, en tant que bénévoles et aussi avec Camille Bossier, la responsable de Vacances et Familles, de savoir un peu comment elles ont vécu leurs vacances, si ça s'est bien passé. C'est ça qui est important, quoi. Et puis de voir si elles sont prêtes à repartir ou pas. Ou des fois, il y en a qui peuvent ne pas être satisfaits aussi. Hein, c'est d'avoir aussi des retours pour avancer de toute façon. Hein, donc voilà.
Mais en tout cas, il y a un véritable suivi qui est fait par l'association des personnes qui ont pu partir en vacances grâce à vous. Comment est-ce qu'elles évoluent? Est-ce que certaines arrivent à partir en vacances en autonomie? Ou est-ce que d'autres viennent régulièrement aussi vers vous?
Alors, il y en a qui arrivent à partir en autonomie, hein, tout à fait. Alors après, elles peuvent partir avec nous jusqu'à 3 fois. Et normalement, logiquement, elles sont en capacité après de partir seules en vacances. Donc oui, il y a des personnes qui ont compris le système et qui partent seules en séjour. Hein. Voilà, okay, ouais.
Alors, on parlait tout à l'heure des bénévoles pour faire fonctionner l'asso, mais au niveau des moyens financiers, est-ce que c'est facile de faire tourner une telle structure? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers?
C'est une association qui fonctionne au niveau national, donc c'est pas si simple parce que il y a déjà au niveau des financements départementaux publics, c'est réduit hein, comme partout. Et puis après, on a aussi beaucoup de mécènes qui sont là pour les financements. Donc, on arrive encore, mais ça, voilà.
Pour l'instant, ça tient.
Pour l'instant, ça tient. Oui, pour l'instant, ça tient. Ouais.
Merci beaucoup, Marie-Chantal Guillot, d'avoir été avec nous. Je rappelle, bénévole chez Vacances et Familles 49, qui permet chaque année à de nombreuses personnes de partir en voyage. Bonne soirée.
Merci.
Le pédalo, c'est bientôt terminé, mais avant, on vous propose d'écouter un micro-trottoir. Depuis la semaine dernière, Radio Campus Angers propose des ateliers pour les ados, des ateliers radio autour de la nature, de l'écologie et de l'environnement au cœur du parc Balzac. Ça s'appelle Radio Héron. Il reste encore des places pour cette semaine. C'est parti trop tôt. Il reste encore des places pour cette semaine. Ça sera mercredi et jeudi de 14h à 16h. Jeudi dernier, Léonie, Marjolaine et Philomène sont allées faire interroger les passants et passantes dans les rues d'Angers autour de cette question qu'elles ont elles-mêmes choisi, pour ou contre la gratuité des transports en commun. Écoutez les réponses.
Pour, parce que je trouve que ce serait beaucoup plus pratique pour la ville et que ça permettrait de moins prendre la voiture dans le centre-ville.
Pour l'écologie déjà, ça permet de faciliter l'envie des gens de prendre les transports pour éviter les pollutions avec toutes les voitures individuelles que tout le monde prend. On a des parkings relais à tous les terminus de tram, donc ça permettrait de pousser les gens à vraiment le faire.
Je suis pour. Parce que je pense que tout le monde, même indépendamment de ses revenus, devrait pouvoir se déplacer gratuitement dans sa ville, ou même un peu en dehors de sa ville. Ça permettrait de régler pas mal de soucis de déplacement pour des personnes éloignées, des soucis écologiques, voilà. Ça inciterait les gens à prendre des transports en commun, de mon point de vue.
Personnellement, je suis pour. Habitant moi-même à Angers, j'avoue que je prends régulièrement les transports en commun. Et du coup, au vu des tarifs, j'ai même tendance des fois à faire tous mes trajets à pied pour limiter les frais mensuels. Mais je trouve que pour le coup, à Angers, les réseaux sont quand même vachement bien développés et que la gratuité permettrait vraiment une accessibilité encore plus. Je pense que pour tout le monde, je vois pas pourquoi certaines personnes devraient y avoir le droit ou pas. Après, pour des questions de faisabilité, je pense que s'il faut donner la gratuité à une certaine tranche d'âge, on pourrait mieux tabler sur les enfants et les étudiants dans un premier temps. Pour la précarité étudiante, enfin, je sais que moi-même, je sors récemment de mes études et voilà, quand on est étudiant, si on peut économiser 25 à 50 euros par mois pour les transports, c'est toujours ça de prix.
Je suis carrément pour. Ça paraît essentiel, surtout pour les jeunes qui ne peuvent pas forcément toujours s'offrir ou se payer des transports en commun, que ce soit tram ou bus d'Angers.
Oui, parce que ça coûte cher. Pour ceux qui sont réguliers, ça revient à un prix assez conséquent. Donc, surtout pour tout ce qui est étudiant, parce que c'est beaucoup pour les étudiants, ils n'ont pas forcément les moyens.
Plutôt pour, parce que c'est vrai qu'à Angers, on a pas mal de transports en commun et les payer 2 euros à chaque ticket, c'est vraiment compliqué, quoi.
Je suis pour parce que je pense que, comme des jeunes comme nous, on a besoin de pouvoir être libre de transport et on n'a pas tous forcément les moyens de se payer un abonnement cher ou alors un ticket à 1,70 €. Je pense que ça serait pour tout le monde et ça serait pas mal si ils n'ont pas forcément les moyens. Je pense que ça serait bien le week-end au moins ou alors les mercredis où les journées des jeunes sont allégées.
Alors oui, je serais pour parce que ça inciterait peut-être plus de personnes à prendre les transports en commun et peut-être moins utiliser la voiture personnelle et peut-être moins contribuer à la pollution de l'environnement. Alors moi je pense que ce serait pour tout le monde. Je dirais peut-être plus pour les personnes âgées parce qu'il ne faudrait pas trop qu'elles prennent le volant. Peut-être qu'elles sont peut-être pas disponibles, qu'elles sont pas vraiment aptes à prendre le volant et peut-être que ça écarterait moins le danger. Enfin ça réduirait le danger sur la route et donc voilà. Mais je pense quand même que ce serait peut-être bien pour tout le monde.
Je suis pas pour 100% du temps, mais pour passer une certaine heure, comme ce qu'ils font à Nantes notamment, passer genre 20h, 19h, comme ça pour les gens, surtout pour les femmes, qui puissent rentrer en sécurité sans être trop embêtées la nuit, parce qu'on connaît dans le monde dans lequel on vit maintenant, malheureusement. Mais sans ça, non, faut quand même payer, faut quand même pouvoir rémunérer l'entretien des transports, même payer les chauffeurs, etc. Donc faut quand même payer, mais au moins vous donner un accès gratuit dans les circonstances.
Pourquoi pas ? Comme ça, au moins tout le monde pourra y participer, enfin y bénéficier du moins. C'est vrai que ça arrangerait peut-être pas Irigo, mais bon, oui, pourquoi pas.
Ah ça, c'est une sacrée bonne question. Je me demande toujours, quand je me pose cette question, qui va payer la gratuité? Oui, c'est plutôt une bonne idée. Ça permet que les gens qui habitent loin du centre-ville puissent accéder au centre. C'est peut-être pas plus mal. Ça évite comme ça que les commerces de centre-ville dépérissent. Mais c'est vrai, qui va payer? Parce que c'est pas rien tout de même. Donc il va y avoir des impôts supplémentaires. Pourquoi pas? Mais où vont-ils être trouvés, ces impôts supplémentaires? Voilà ce que je pense. Mais ceci dit, je me déplace en vélo et c'est très sympa aussi.
Non, je ne suis pas pour la gratuité parce que rien n'est gratuit. Quelque part, il faut payer. Tout se paye. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut adapter certaines situations. Rendre les transports moins chers pour certaines catégories de personnes qui n'ont pas forcément les moyens, pour des jeunes, pour des personnes en difficulté, ça oui. Mais rien n'est gratuit. Tout se paye.
Et si vous aussi vous voulez faire de la radio, il reste encore des places pour les deux derniers ateliers du Radio Héron. C'est mercredi et jeudi de 14h à 16h au Nid du Héron, la guinguette du Parc Balzac. C'est ouvert aux ados à partir de 12 ans. Inscrivez-vous sur le site de la page Hello Asso de Radio Campus Angers. Le pédalo termine sa traversée sur les ondes de Campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Mathias à la technique. La programmation continue sur le 103 FM. Alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.